Slime, saison 2, épisode 6, rideau.
On fait toutes et tous de notre mieux pour parler de comédie musicale et faire découvrir ça au plus de gens possible. Certaines personnes en parlent dans une émission mensuelle, d'autres harcèlent leurs proches en mettant Hamilton en boucle dans l'autoradio, d'autres payent des voyages à Londres à leurs amis et attendent toujours de se faire rembourser 2 ans plus tard. Bref, tout le monde fait un peu sa part du travail pour aller contre vents et marées et clichés et persuader le monde que la comédie musicale c'est riche et c'est bien plus que ce que l'on croit au premier abord. Certaines autres personnes font des comptes sur internet pour chroniquer leur passion, faire découvrir des œuvres connues ou non, françaises, étrangères. C'est le cas de notre invité d'aujourd'hui dont l'identité vous sera révélée juste après le générique.
Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale et qui a une présence incontournable sur les réseaux sociaux. Je suis Gauthier et je suis alors vraiment au tout dernier rang, j'y vois pas grand chose mais j'avais pas un énorme budget non plus. Et à ma droite il y a Ange, salut Ange.
Salut Gauthier.
Ça va?
Bah ouais, toi?
Bah écoute, ça va, je vais répondre sûrement à la même chose aux 3 prochaines personnes qui vont me poser la question. Sur la même place mais à l'étage d'en dessous parce qu'on n'a pas pu prendre toutes les places en même temps, ça c'est une galère, je vous raconte pas. Il y a Élise, salut Élise.
Salut Gauthier.
Toi aussi ça va?
Bah oui ça va, un peu chaud mais ça va.
Oui bah écoutez, c'est le printemps qui arrive, non qui est fini,
c'est l'été qui arrive.
Je confonds les saisons. Et à ma gauche, on a eu de la chance, on a des rush tickets, elle a pu venir au tout dernier moment, c'est Ilona, salut Ilona.
Salut Gauthier.
Toi j'espère que ça va aussi, comme,
moi, ça va très
comme tout le
bien.
Monde, sinon ça ferait mauvais genre de parler bien.
Et toi, comment vas-tu? Parce que Élise ne t'a pas demandé quand
même. C'est vrai, j'ai répondu une seule fois. Bah ça va, maintenant ça va pas très bien, tu vois. Merci à vous trois d'être là. Et juste devant nous, on l'agace un petit peu parce qu'on parle un peu trop fort alors que le spectacle il a quand même commencé depuis 5 minutes. C'est notre invité Morgane, alias Mo in Theater, sur les réseaux sociaux. Salut, comment ça va?
Ça va très bien et toi Gauthier?
Ah bah ça va. Enfin, quelqu'un qui me pose comment ça va.
Pardon.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale et qui fait systématiquement une story en attendant que le spectacle commence. C'est parti. Morgane, tu fais des vidéos sur la comédie musicale, notamment sur TikTok, où tu parles des actualités, que ce soit en France ou à l'étranger. Tu fais des retours d'expérience sur ce que tu vois, ainsi que d'autres petites vidéos dont tu parleras peut-être. Je pense qu'on peut aisément dire que tu es passionnée de comédie musicale.
C'est ça, dès mon plus jeune âge. France, étranger, beaucoup à Londres. Je suis désolée de faire autant de vidéos de mes voyages, etc. Mais j'essaye de parler de plus en plus de la comédie musicale en France parce qu'on a une bonne base et qu'il faut le partager.
Est-ce que tu peux peut-être raconter un peu ton histoire avec la comédie musicale?
C'est ma mère, hein, clairement. On va pas se mentir. Hein. Dès le plus jeune âge, la première chose que j'ai vue, c'est Mary Poppins. Après, on est passé au Magicien d'Oz. Et après, j'ai passé en boucle, en boucle, en boucle, Chantons sous la pluie. Voilà. Et petit à petit, High School Musical est arrivé aussi. Des choses un peu plus d'ado. Et après, Glee, clairement. Hein, ça apporte une ouverture un peu plus élevé en termes de comédie musicale, Broadway, etc., avec leur épisode spécial Rocky Horror Picture Show, par exemple, qui est vraiment excellent. Et après, les bootlegs de Broadway.
Bien sûr,
le tutoriel. Et voilà comment je suis arrivée là à aller en France, à Londres, même à Édimbourg, des fois, pour suivre des gens, et à New York.
Waouh, c'est beau.
Partout finalement, tu n'as pas de frontières.
Non.
parce que tu parles de comédie musicale sur Internet, sur TikTok notamment, depuis 2 ans, si je ne m'abuse, depuis 2024. Pourquoi est-ce que tu as voulu commencer à parler de ce sujet-là sur les réseaux?
Mes potes en avaient marre de moi. Donc j'étais un peu dans un cercle un peu fermé sur les comédies musicales et je trouvais ça un peu dommage de ne pas partager le fait d'aller voir beaucoup de choses et d'être un peu solo. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, dont vous aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant et hyper cool, les discussions. Et de pas juste garder tout ce que je fais pour moi, quoi. Faire découvrir les choses qui sont plus ou moins bonnes. J'essaye de quand même un peu moins parler des moins bonnes parce que chacun a son avis et c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que les gens n'aimeront pas. Donc des fois, je vais juste faire une vidéo en mode j'ai été voir ça, mais sans vraiment donner mon avis. Mais quand j'aime bien, j'aime le partager et le faire découvrir à un maximum de personnes. Il y a des choses extraordinaires à Paris ou à Londres, par exemple, que j'ai vues où les salles étaient vides, alors que c'était des choses très qualitatives et qui méritaient beaucoup plus de personnes.
Moi, je me demandais, du coup, est-ce que tu as déjà eu des retours de gens qui n'étaient pas de ton entourage de base, mais que tu as atteint via tes vidéos et qui t'ont fait des retours en mode « Ah, tu as parlé de ça et du coup, je suis allée voir tel spectacle, j'ai adoré et tout. »
Ouais, beaucoup. Ça fait, c'est un peu bizarre. Ou à un moment, je disais « Mais comment tu as découvert ça ?» Parce que maintenant, je me suis vraiment liée d'amitié avec des gens depuis un peu plus d'un an. Et j'ai demandé « D'où est-ce que tu avais entendu parler de ça ?»« Ah bah, c'est toi !» Et moi, de base, j'en avais jamais entendu parler. C'est juste qu'on m'a contacté pour parler et j'avais un peu regardé le sujet et j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'en avais parlé, mais pour moi, je sais pas, une vidéo qui fait 1000 vues, pour moi, il y a pas 1000 vues ne veut rien dire et il y a pas une personne qui a forcément. C'est pas parce que j'ai 1000 vues que les gens ont écouté ce que j'ai dit. Et en fait, si. Donc c'est un peu perturbant. Hein,
C'est ça l'influence finalement.
Oui. Influenceuse théâtre. Influenceuse comédie musicale.
C'est à peu près ça, ouais.
Même ce truc-là avec les Internet et les réseaux sociaux où on se rend pas compte que les chiffres ne veulent rien dire, comme non. Tu dis. Sauf que si c'est une ou deux personnes qui écoutent déjà ce qu'on dit et qui suivent les conseils, ça fait déjà incroyablement plaisir, quoi.
C'est ça, mais en plus, la dernière fois, j'ai stage door sur une comédie musicale française, juste parce que j'aime bien faire signer mes programmes.
Est-ce que tu peux expliquer stage door ce que c'est?
Ah, excusez-moi.
Pour nos très nombreux auditeurs.
Français. J'ai été à la sortie des artistes françaises, et donc j'ai juste attendu les comédiens, acteurs, pour faire signer mon programme, parce que j'aime beaucoup pas forcément discuter avec eux, juste faire signer mon programme. Et en fait, on m'a reconnue. C'était un peu perturbant. Wow. Et on m'a dit merci beaucoup pour tes vidéos. Et j'étais en mode, on a passé un cap là quand même. J'étais en mode, pour moi, voilà, c'est ça. J'essaye de partager un max. Et si j'aime, oui, je vais vraiment partager énormément parce que les comédies musicales en France sont encore un peu trop peu connues et méritent beaucoup plus. D'être connue et donc c'est dommage.
Franchement, c'est un beau compliment. Ouais. C'est un beau compliment. Ouais, félicitations, bravo pour ton travail. Hein. C'est cool quand même comme récompense. Ouais.
Mais c'est justement, tu parles France, ça reste un peu niche quand même en France, les comédies musicales, même si de moins en moins en vérité, depuis que l'émission Slime existe
bien
sur
sûr,
les ondes.
Oui.
Ça, on a décollé toutes les stats. Comment est-ce que tu fais pour parler de ce sujet-là pour peut-être intégrer un nouveau public, montrer que ça va au-delà de ce qu'on sait sur les comédies musicales. Est-ce que tu as un angle particulier d'approche ?
Non, pas vraiment. Non, je dernièrement, j'ai essayé de trouver une base de vidéos où je commence toujours pareil, un peu joyeuse, un peu voilà, pour essayer d'être dynamique et donner envie. Je partage sur TikTok que avec des vidéos et sur Instagram où j'essaye d'être un peu plus avec des carousels, des choses comme ça, pour donner des reviews un peu plus pro et pour que chacun puisse aller sur mon compte et aller trouver qu'est-ce qui peuvent leur faire plaisir, etc. Mais c'est encore en construction, quoi. Hein. La communication, c'est extrêmement compliqué. Hein.
À qui le dis-tu ?
Surtout sur les réseaux, il y a des trucs très aléatoires et tout.
C'est sûr. Ouais.
Et puis, ça peut être compliqué. Souvent, on va aller toucher une audience de niche. Tu vas pas forcément aller chercher des gens qui aimaient pas la comédie musicale. Tu vas juste construire ta petite niche et de gens fous qui vont adorer ce que tu fais. Mais c'est trop cool, en tout cas.
Alors moi, j'ai une question qui me vient comme ça à t'entendre parler. J'ai envie de savoir, c'est quoi le truc qui te touche dans la comédie musicale ? Qu'est-ce qui va faire que tu vas voir cette comédie musicale et tu vas te dire, ça, c'est un banger ? Vaste question, hein, c'est
dit. Non, mais c'est vraiment un ressenti. Des fois, je vais aller voir un truc que... inconnu au bataillon, j'ai jamais entendu parler, je sais même pas de quoi ça parle, juste j'avais été à un showcase en novembre d'un musical qui s'appelle Midnight à Londres, écrit par Todrick Hall, et je me suis dit, j'ai jamais fait de workshop, expérience à vivre, on n'avait aucun pitch, aucun cast, rien du tout à part que c'est écrit par Todrick Hall, bon c'est déjà pas mal, et j'en suis ressortie complètement bouche bée, c'est un 5 étoiles, c'était écrit incroyablement bien, et... limite j'ai réussi un peu à trouver un point commun sur toutes les comédies musicales que j'aime beaucoup qui est pas le cas pour tous hein, mais voilà il y en a beaucoup les sung-through, donc c'est où il y a beaucoup de musique. Normalement les sung-through c'est que Il y a même pas de paroles, mais j'ai quand même des comédies musicales préférées où ils discutent, etc. Mais par exemple, Hamilton est un song through, et pour moi, c'est juste exceptionnel et ça va vraiment au-dessus de beaucoup d'autres comédies musicales que j'ai vues.
L'opéra rock en français, bien évidemment. Ce qui est censé être l'opéra rock, plutôt.
Starmania, officiellement.
Starmania, officiellement, opéra rock, et peut-être finalement le seul vrai opéra rock.
Mozart, l'opéra rock, n'est pas un vrai opéra rock ?
Non.
Pas trop.
Non, en vrai, non.
Le mythe s'effondre.
Mais c'est ok, c'est super.
C'est bon, je quitte l'émission.
Mozart, l'opéra urbain n'est pas vraiment un opéra rock.
Ils l'ont changé, ils l'ont retiré, le mot opéra urbain à côté, parce que bon.
Ça faisait peut-être un peu trop cheesy.
C'était un peu trop Hamilton, quoi.
Molière, Hamilton, Codide.
Non. Je refuse d'y croire.
Est-ce que parler de comédie musicale sur Internet, ça t'a apporté des choses ? Est-ce que t'as l'impression d'avoir une espèce de légitimité à en parler ?
Déjà, on parlait justement des comédiens qui me reconnaissent, donc déjà là. Mais moi, surtout, ça m'a apporté de découvrir la scène musicale française. Moi, je suis. J'aime Le Roi Soleil, Mozart. Dernièrement Molière, mais sinon je n'ai jamais été vraiment plus loin. Oui, je connaissais les Cléopâtre, les trucs du style, quoi, mais c'était pas forcément ce que j'apprécie. Et donc j'ai jamais mis mon nez vraiment à fond dans les comédies musicales françaises. Et en fait, on a vraiment des très bons acteurs, des très bons comédiens et des très bonnes bases. Et donc faut permettre de découvrir ça et de le partager. C'est vraiment bien, quoi.
Il y a beaucoup de choses qui se font récemment, en plus. Enfin, ouais. De plus en plus...
J'en sais rien, vu que j'étais pas dedans. Moi, c'est pour ça que je trouve qu'on a eu une année extraordinaire 2025-2026, qui a l'air de se prolonger sur 2026-2027. Vu que j'avais pas le nez dedans, pour moi, j'ai loupé plein de choses, mais ça se trouve pas du tout, et je suis juste tombée au bon moment, hein, j'en sais rien du tout.
Mais c'est il y avait eu un boom au fin 90, début 2000, et après, vraiment une espèce de petite pause, quoi, et là, ça reprend depuis quelques années, et bah, c'est bien. Après, bon, bah, comme tout, il y a des trucs qui sont super, il y a des trucs qui sont pas top, mais bon, bah, c'est ça, on va pas interdire l'art, quoi.
On commence à voir les shows, les comédies musicales, Broadway, etc., qui arrivent en France, et ça, pour le coup, c'était pas le cas avant.
Parce qu'on
avait les trucs, les classiques, voilà, il y avait déjà eu Chicago,
Emmanuel
etc.,
Moir,
et tout. Mais là, on commence à réavoir le 109 qui arrive,
comédies musicales.
Et ça, c'est beau. Ouais.
Non, et même, on a aussi les tournées qui passent à Paris. On a Retour vers le futur en 2027.
Oui. Les billets sont pris.
Très bonne comédie musicale, sincèrement.
Je l'ai vu 5 fois, trop fois, mais
il n'y a jamais assez de jamais visionnage
c'est
de
vrai.
Retour vers le futur.
T'as dit la même chose avec Eders hors antenne.
Ah ouais.
ça vaut pour les deux, ça vaut pour beaucoup.
Ça vaut juste pour ces deux-là.
Ça vaut pour beaucoup de choses.
On va faire une pause, on va écouter une musique que tu nous as conseillée. Est-ce que tu peux présenter quelle musique on va écouter ?
On va écouter The Key Is de Alice by Heart. Donc Alice by Heart, c'est un musical qui était en off-Broadway, donc pas gros Broadway, qui n'a pas eu énormément de succès et qui essaye de revenir petit à petit, mais qui n'y arrive pas. Et en gros, c'est l'histoire de pendant la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements, où tout le monde à Londres, où tout le monde va se cacher dans les souterrains, etc. Et là, on suit un groupe de gens dans un métro. Et il y a une maladie qui se propage, je crois que c'est la tuberculose, mais je suis pas sûre, je vais pas vous mentir.
Je crois que c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et en fait, Yonin est sur le point de mourir, hein, clairement, et on essaye de le divertir. Et la fille dit je connais Alice au Pays des Merveilles par cœur, parce qu'on lui enlève tout son divertissement, toutes les choses. Et là, The Key Is, c'est vraiment le moment pour essayer de s'évader. Essayer de penser à autre chose que ce qui est en train de se passer au-dessus de leur tête, quoi.
On écoute ça tout de suite.
Leave the talkers talking, the hum is what we want, a song beyond thought. Let the worry fade, no more hurry, hurry, the summer is purring.
We're going higher, cause the sea and the shore, the sigh of the wind and
Vous venez d'écouter The Key Is de Alice by Heart.
Slime. Un vendredi par mois à 19h. Sur Radio Campus Paris.
Toujours dans Slime sur Radio Campus Paris. Tout de suite, on va passer à la chronique de Ilona AK. De. Ouh là là, rien du tout. De Élise. Oh, oh là là. Élise, vas-y.
Non,
c'est
mais
à toi.
C'est super. Il confond les femmes. Encore. Et puis il y en a quatre autour de la table et il ne sera pas
dit. Tu es viré.
Ce sera coupé au montage.
Renvoyé, ça ne sera pas coupé au montage. Je dirai tout sur les réseaux sociaux si tu fais ça. En tout cas, me revoici, me revoilà, je suis encore là pour parler de petites actualités personnelles, voilà, des choses qui passent dans mon feed, finalement, en général, et pourtant, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en ce moment, il y a un acteur, un comédien qui n'a pas pu vous échapper si vous suivez un peu la comédie musicale, c'est Jack Wolf, ça vous dit quelque chose?
Quel homme, incroyable.
Faites un petit cri si vous êtes fan.
Ouais.
Je suis passée devant... une foule de fans qui l'attendaient devant un hôtel la dernière fois.
Un hôtel, oh là là, ouais. Un peu grave.
C'était ok.
Un hôtel, ne faites pas ça, la stage door, c'est bien, l'hôtel.
Ouais.
Non, merci.
C'est pas dingue.
Si vous connaissez pas Jack Wolf, chers auditeurs, comment le décrire autrement qu'un petit mec tout mimi qui chante très très bien. Voilà, il est super vraiment, il a explosé sur les réseaux sociaux et il a envahi les feeds de beaucoup de monde. On l'a notamment vu dans Next to Normal, que j'ai pas vu, no spoil, merci à tous. Et plus récemment, il avait fait ses débuts en septembre, il me semble, à Broadway, sur le rôle de Orphée dans Hades Town. Et alors là, voilà, c'est devenu une folie. Tout le monde en a parlé. Les gens réclament des pro-shots, se roulent par terre, supplient tout le monde d'avoir des vidéos. Voilà.
J'ai envie de dire, quand est-ce que les gens ne réclament pas de pro-shots à chaque fois qu'il y a un nouvel acteur d'Orphée?
Ah oui, non, mais c'est vrai. Mais là, le cast s'est arrêté récemment et vraiment tout le monde était abattu qu'il n'y ait pas eu de pro-shots d'Orphée. Et c'est vrai parce que j'ai pu voir des vidéos légales. De Jack Wolf, et vraiment sur Orphée c'était divin. Actuellement il a plus de 400 000 followers sur Instagram, ce qui est beaucoup pour un mec qui fait de la comédie musicale et surtout qui est arrivé dans le game assez récemment.
Le problème, c'est qu'il ne fait pas que de la comédie musicale. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes devant son hôtel. Hein.
Exactement. Il a joué dans des séries, mais moi, je ne le connaissais pas du tout.
Moi non plus.
Du tout pour ça, parce que bah, je ne regarde pas trop de séries, parce qu'on n'aime que la comédie musicale ici. Merde.
Voilà. Dans quelle série il a joué, juste par curiosité?
Crown. Oh là là.
Ah, j'ai
c'est
pas
un de... bon.
Je peux ouvrir une page Wikipédia
de...
à tout moment.
Moi, j'étais vraiment sur la comédie musicale. Mais bref, il est super, il est très talentueux et très touchant. Mais moi, ce que je voulais parler un peu de Jack Wolf, ce qui m'a impressionné avec lui, c'est que Jack Wolf is not like other tenors, en fait, voilà. En ce moment, je trouve qu'on voit un peu des profils comme lui, de ténors un peu plus touchants, un peu plus dans... Comment dire, c'est très sentimental, très dans l'émotion, et il joue très 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 bien. Et aussi, bah, par exemple, je pense au rôle d'Orphée, qui écrit comme ça et qui a été son rôle notable récent. C'est pas un rôle dans la puissance du tout, et même vocalement, c'est tout l'inverse. C'est un rôle dans beaucoup de délicatesse, beaucoup de dentelle. Et je trouve ça cool qu'on voit ce genre de profil masculin un petit peu plus se démocratiser, sans être le bébête ou le mec déchiré, mais un petit peu de candeur dans les rôles masculins. Moi, j'aime bien. Et c'est sûrement aussi, encore une fois, l'écriture d'Orphée qui fait que, voilà, je l'associe beaucoup à Jack Wolf parce que c'est sur ça que je l'ai beaucoup vu, moi, personnellement. Mais en tout cas, il a d'être ça. Et je trouve ça cool qu'on aille vers ce genre de profil.
Attention, je vais faire une phrase Twitter. Est-ce qu'on peut parler de déconstruction de la masculinité?
J'espère et j'aimerais bien, et c'est cool parce que on en a déjà parlé sur Slime avant, mais la comédie musicale, c'est encore très beaucoup des profils types et beaucoup de cases, et c'est chiant, ça m'embête parce que ça, on s'est vu et revu partout dans le cinéma, dans la comédie musicale, et là on a un média beaucoup plus libre artistiquement puisque factuellement on est des comédiens, c'est pour de faux, donc on peut faire ce qu'on veut. Et bah, je trouve ça cool, voilà, qu'on essaye d'aller dans des trucs un petit peu plus... voilà, on va chercher des choses qui frottent un petit peu, tu vois, un petit peu de légèreté, un petit peu de fraîcheur, et ça me fait plaisir. Je trouve que Jack Wolf l'incarne particulièrement bien.
Ouais, et puis ça nous fait quand même un certain renouveau, comme tu dis. En fait, c'est cool de pouvoir sortir du cadre, de cette espèce de moule des rôles préconçus. Moi, j'ai fait des études de comédie musicale avec Élise, on est ensemble. La première chose quasiment qu'on m'a appris, c'est l'emploi.
Oui.
T'as des cases et on te dit, ok, tu rentres dans cette case ou cette case ou cette case ou cette case. Et a priori, tu n'en sortiras pas. Et si tu fais une chanson qui ne correspond pas à ton emploi, t'es nul.
Oui, on nous a vraiment beaucoup dit ça, c'est terrible.
Oh, pardon, pardon. Oui, vas-y.
Désolée. Là, ce que je trouve très intéressant avec Ad Astern, justement, c'est que chaque personne qui a fait le rôle d'Orphée, par exemple, il a mis son petit grain. Et c'est accepté. Ouais. Chose que ça ne l'est pas forcément. Souvent, comme vous dites tous, on veut des cases et on veut, c'est ce rôle, tu dois rentrer dans cette case et tu dois faire ça. Tu n'as pas le droit à l'improvisation, tu n'as pas le droit à des choses en plus qu'on ne t'a pas acceptées. Chose que dans Ad Astern, c'est pas le cas. Ce qui fait qu'on a des rôles qui sont joués soit par des hommes, soit par des femmes, soit par des personnes non binaires. Et donc, il y a un développement qui est très intéressant et qui fait que, en fait, tous les derniers Orphée sur Broadway qui étaient là ont tous explosé parce qu'ils ont mis leur petite touche, ils ont mis leur petit grain. Et Jack Wolfe, qui est extraordinaire, a quand même réussi à se un peu contenir dans Ad Astern comparé à d'autres rôles. Moi, je pense beaucoup à The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Je ne sais pas si vous connaissez. Il était l'original dans un des rôles. Et dernièrement, je l'ai vu, pas avec lui, parce que là, il était dans Ad Astern, donc c'est venu dans le West End sans lui, avec un autre acteur, qui, en fait, on a l'impression que c'est Jack Wolfe devant nous. j'étais en mode, ah, d'accord, ouais, c'est là où du Jack Wolfe, on le reconnaît énormément. Il a réussi à mettre son grain, son personnage dedans. Et je trouve ça très intéressant dans Ad Astern qu'ils arrivent tous à pouvoir être original dedans.
Ouais, il y a un truc super marrant, je trouve, c'est qu'en ce moment dans le West End, ou peut-être qu'il est plus là, il y avait un acteur qui avait un accent irlandais, qui jouait Orphée,
ouais.
Et depuis, tout le monde est tombé complètement amoureuse de son accent, et réclame des acteurs à l'accent irlandais pour jouer Orphée.
Dans le West End, ils le font beaucoup, dans Six par exemple, on avait des Écossais et tout ça, et ils les laissent avoir leur accent, ils sont en mode « allez-y ».
Ouais. Pardon,
vas-y.
Y a plusieurs profs avec lesquels j'ai bossé qui ont dit à d'autres gens de ma classe qui avaient des accents que l'accent devait être totalement gommé, même si c'était des accents très légers, mais comme quoi ils trouveraient jamais de travail avec un mini accent du sud ou autre.
Alors que en réalité, on joue un personnage. Le personnage, c'est un petit peu un costume qu'on met. Si je mets un costume, certes, je vais être costumée, mais je ressemblerai pas à Élise qui va mettre le même costume que moi. Et c'est ça l'idée, en fait, c'est ça ce que tu dis. Chacun apporte sa petite patte. Et certes, on porte le même costume, on est habillé pareil, mais on est quand même foncièrement différent. On nous distingue dans la rue. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on est quand même vachement prise de tête sur ce genre de sujet. Vachement prise de tête.
Et surtout au théâtre, en vérité, où justement on a vraiment la liberté de tout faire, et pourtant on ne laisse pas la liberté.
La vérité
sortira un jour. Et ouais, non, et en
c'est
fait,
donc ça la vérité, c'est les accents irlandais.
C'est tout ce qu'on demande.
Ce que vous disiez plutôt me fait penser. L'année dernière, j'ai vu à quelques jours d'écart Eddystown et Hamilton à Londres, et ça m'a frappé la différence de liberté. Par rapport, c'est pas la première fois que je voyais Eddystown, et Eddystown, franchement, chaque fois, je l'ai vu quatre fois, chaque fois c'était vraiment très différent les uns des autres. Il y a vraiment des choix qui étaient très forts de la part des actrices, et Hamilton qui est excellent, mais justement, et beaucoup, les actrices, j'ai l'impression, sont beaucoup moins libres de ce qu'ils font, à part deux, trois trucs rigolos de temps en temps, mais ça reste, on va voir Hamilton cinq fois, on va voir globalement la même chose, alors que Eddystown, à chaque fois, c'est vraiment quelque chose de différent, c'est des acteurs différents, c'est vraiment très 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 intéressant ce truc-là. Merci à vous pour avoir écouté,
merci Élise,
pour avoir discuté. Merci Élise pour ton petit brin de discute finalement.
Avec plaisir, c'est juste pour la causette, quoi. J'adore ça, les sujets de Jack Wolfe.
Et pas causette dans Les Misérables.
Et non,
vous êtes fan de comédie musicale, vous.
C'est possible, oui.
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, on va passer à notre Ilona ou Andrew Rannells, comment est-ce que je dois t'appeler ?
Comme tu le souhaites. Et oui, aujourd'hui, je ne vais pas parler d'Andrew Rannells. Malheureusement pour moi, un jour, je vais faire une chronique que sur lui. Préparez-vous. Ça va arriver. Incessamment sous peu.
On attend.
Moi aussi. Lui aussi, il attend, j'en suis sûre. Aujourd'hui, j'ouvre ma chronique sur une énigme digne de Sherlock Holmes. Quel est le point commun entre... I've got a sweet tooth for licorice drops and
It's your hair, your nose, your chin, little face. You always need a hug, not to mention...
Et
It's getting eerie, what's this cheery singing all about?
Est-ce le fait que ce sont des chansons? Est-ce le fait que les interprètes ne soient pas issus du domaine broadwayesque? Ou est-ce que c'est l'autotune assez flagrant? Sont-ce les trois? Eh bien, la dernière réponse est la bonne, mes chers amis. Ce sont les trois, car ces trois extraits sont issus d'épisodes de séries qui, aléatoirement, par opération du Saint-Esprit, deviennent des comédies musicales temporaires. Parce que ce genre d'interruption divise constamment les fans qui soit trouvent que c'est du génie absolu, que c'est le meilleur épisode de leur vie, de la vie de la série, tout ça, soit que c'est le summum du cringe. Donc il faut savoir que la première série dans laquelle le réalisateur s'est tapé ce délire musical un peu excentrique, c'est la série I Love Lucy. Donc un épisode intitulé The Operetta, qui est sorti en 1956.
Oh, ah oui, voilà. Intéressant.
Dans cet épisode, Lucy écrit une petite opérette afin de récolter des fonds pour un club formé par des femmes de sa ville. Et puis, ça a été repris, beaucoup, beaucoup, dans des séries à beaucoup plus grande échelle, comme Buffy contre les vampires, par exemple. Et c'est devenu hyper courant, presque une tradition, au final, un passage obligé, comme si toutes les séries devaient passer par le rite chantant qui leur donnerait une légitimité certaine. Alors évidemment, c'est pas toujours fait de manière très délicate, et le choc est parfois un peu brutal. On peut par exemple parler de l'épisode spécial de Xena la guerrière. Voilà, essayez deux secondes de vous imaginer la vibe de la série et la vibe d'une comédie musicale. Les deux ne matchent pas généralement. Mais c'est marrant, parce qu'on découvre ce à quoi ressemblaient les battles de rap de l'époque. C'est intense.
L'intention est folle.
Ou encore, attendez, accrochez-vous. Les Boom Disco, à l'époque de Xena. Oh, faut vous imaginer les gens qui dansent avec.
Ah, c'est super.
Très vite dans l'ambiance, au moins, c'est davantage.
Ça dépote, comme on dit.
C'est vrai qu'on le dit.
Mais ça peut aussi se faire de manière un peu plus justifiée, enfin, entre guillemets. On rappelle que bien souvent, dans les comédies musicales, les chansons reflètent ce qui se passe à l'intérieur de la tête des personnages. Donc, dans plusieurs séries médicales, comme par exemple Dr. House, les chansons sont incluses dans les rêves hallucinés des patients sous anesthésie. On peut aussi parler de Grey's Anatomy, parce que oui, même cette série, la préférée de ma mère, d'ailleurs, coucou maman, je passe à la radio, si jamais tu m'écoutes, les chirurgiens chantent alors qu'ils sont en train de réanimer Torres. Imaginez.
C'est vrai.
C'est une simulation. Fermez tous les yeux. Imaginez. Il est 2h du matin. Vous êtes en service de réanimation, en train d'avoir une hémorragie suite à une triple amputation causée par un crash d'avion en pleine mer. Et là, vous entendez ça. C'est beau, n'est-ce pas?
Ambiance dans le bloc. Je la connais par cœur, by the way.
C'est définitivement une petite solution à proposer à la PHP. Si ils nous entendent. Bref, c'est un passage obligé pour la plupart des séries US, à tel point que certains réalisateurs ont été demandés aux acteurs qui ne savent pas chanter d'apprendre à lip-syncer pour l'occasion. Non. Et du coup, non mais c'est vrai, ils ont engagé des chanteurs pros et fait semblant depuis le début que c'était les chanteurs, que les chanteurs étaient les acteurs originaux. Et vous alors? Est-ce que vous aimez ça ou est-ce que ça vous cringe? Il y a Ange qui est en train de s'exciter dans le coin de la table. J'ai hâte de pouvoir entendre ce qu'elle va dire, si vous comprenez ce que je veux dire.
Vous connaissez la série Les petits meurtres d'Agatha Christie?
Oui.
Oui.
C'est trop bien. C'est trop bien.
Ils ont fait un truc musical?
Bah oui.
Ah oh non.
Bah oui. Alors, il y a la première série avec, je sais plus son prénom, et Marius Colucci. Ça c'est la première série. Il y a une deuxième série avec Samuel Labarthe de la Comédie Française. Le dernier épisode de cette saison, c'est de la comédie musicale et c'est hilarant, c'est exceptionnel. Tout est pépite. Tu vois Samuel Labarthe qui essaye de danser et qui fait de son mieux et c'est super. Tu vois tout le monde qui chante et franchement ça chante pas très bien. C'est assez moyen, mais il y a tellement de volonté de bien faire. C'est tellement cool. Je suis trop heureuse.
Là, c'est assumé. Ils n'ont pas engagé quelqu'un pour faire semblant.
Ah non. Et à la fin, dans le best-of de l'épisode, tu vois. Et pardon, je suis trop à fond.
C'est génial.
Tu vois les répétitions. Tu les vois. Qui sont en train vraiment d'essayer d'apprendre à chanter et de faire de leur mieux. Et il y a plein de numéros. Vraiment, regardez cette série, c'est top.
On a Rosalie qui est la technique aujourd'hui, qui a un exemple à nous donner.
Moi, j'avais dans la série The Magician. Il y avait un passage musical, mais qui était vraiment bien et que j'ai même réécouté, que sur YouTube et tout, je le réécoutais après, tellement il était bien. Je vous conseille.
Magicien, je ne connais pas du tout cette série.
Ah, c'était sympa.
Ah, oui, non, j'ai confondu avec The Prisoner, rien à voir.
Moi, j'ai un petit bif avec Riverdale.
Non, mais j'allais en parler. Oui, bah, c'est catastrophique.
Je n'ai pas vu la série,
c'est un truc.
Mais l'épisode Everse.
Mais il y a un épisode Next to Normal aussi. Next to Normal aussi. Ils se sont déchaînés, au moins ils sont partis sur des vrais musicals. Mais.
Ils ont changé
de paroles. Il y a un autotune, ouais. Mais de malade. Mais c'est horrible. C'est catastrophique. Contre moi en fait, je trouve ça cringe, mais j'apprécie. On va pas se mentir. L'épisode de Buffy et l'épisode de Grey's Anatomy sont un peu mythiques. mais ouais, Owen Hunt qui chante, c'est extrêmement pas ouf. Mais on est pris dedans, etc. Alors que ouais, Riverdale, ils sont vraiment dit, on va faire des comédies musicales.
Et pour le coup, là, c'était purement commercial, je pense. C'était ouais. Pour changer.
Ah, mais c'est sûr. Mais ça se voit dans la manière, je sais pas comment dire, la manière dont c'est shooté. Mmh. Vous voyez un petit peu. En fait, ça se prend au sérieux.
Oui, il y a des petits trucs en mode on fait des plans, tu sais, comment dire, des plans sans cut et tout. Ou c'est un truc. Mais l'épisode Heathers, il est à chialer de rire. Ouais. Je crois que c'est sur Dead Girl Walking. Il y a un moment, il se met à rouler sur des casiers et tout. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais?
Mais en plus, l'autotune est plus que présent dans cet épisode-là.
Il y a plus d'autotune que de comédien.
Il y a un épisode de Riverdale qui m'a trauma. C'est, en tant que fan absolu de cette comédie musicale, c'est celui sur Hedwig and the Angry Inch.
Ok.
Parce que je n'accepte pas qu'on
touche
fou. Hedwig,
vous voyez pas, mais là elle a le poing serré.
J'ai le poing serré, je rougis. Non mais c'est terrible, on sait pas ce qui s'est passé.
Il y a une série qui a pris ce concept à la lettre et qui en a fait le concept de tous ses épisodes, c'est Crazy Ex-Girlfriend. Ouais. Est-ce que vous avez vu cette série? Quel est votre avis dessus?
C'est trop bien.
Rachel Bloom, je t'aime.
Je suis amoureuse d'elle, mais c'est à moi la main, c'est pas radiophonique du tout. Mais c'est super. Oh, elle est tellement forte. Est tellement forte.
Le pitch est lunaire.
Moi, je la connais pas trop, donc je suis sûre que vous m'en parlez.
De ce que je me souviens, on va pas se mentir, c'était il y a quand même pas mal de temps. C'est une avocate qui est à New York.
Elle a un job de rêve.
Ouais, elle va avoir une promotion. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu de sa vie.
Dans le plus grand cabinet de la ville.
Tout est extraordinaire. Et là, elle tombe sur son amoureux de camp de vacances de quand elle avait 13 ans.
Oh mon Dieu.
Et là, elle cherchait un signe. Elle cherchait un signe et là, elle voit une affiche avec du beurre et dit « vas-y ». C'est illogique.
C'est ce qui se passe.
Et lui, elle dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et ça, il fait « ah, j'ai travaillé ici, mais là, je retourne dans ma ville à West Covina. »
California.
qui est pas loin de la mer, tout ça. Non, il est très loin de la mer. C'est un patelin paumé de Californie. Et elle se dit « je refuse ma promotion ». Et je vais aller vivre ma vie à West Covina.
Oh là là.
Mais elle dit, ce n'est pas par amour, c'est pour moi que je le fais. Non, elle est complètement folle.
Et c'est OK.
On accepte, et en plus elle le sait, elle le réalise à un moment que... Non, elle n'est pas venue pour elle. Elle est venue pour l'amour. L'amour. Et les musiques sont extraordinaires.
Oh, la chanson, quand elle je ne sais plus comment elle s'appelle, en noir et blanc.
Oui, oui.
En rouge et noir.
Je vous spoil pas parce que regardez cette série, mais c'est une chanson avec une ambiance dramatique. Elle est en noir et blanc et elle est en train de dire que le blues à la française, c'est quand même vachement sexy, non? Avec des petits mots de français comme ça.
J'ose espérer qu'elle fume une cigarette.
Bien sûr. Évidemment.
Mais tout a des refs, a des vieilles comédies musicales, a des chansons hyper pop. Sur le premier épisode, on a une chanson où en gros c'est A Kiss to Girl en version une fille qui est en train de se préparer pour aller à un date et que les filles mettent 4 heures à se préparer, à s'épiler, etc. et que le mec il est en train de dormir. Et on va revenir au mec, il est en train de dormir. On va encore revenir au mec, il est encore en train de dormir. C'est extraordinaire comme série.
Vraiment, regardez par pitié, regardez Crazy Ex-Girlfriend.
C'est ajouté dans la liste.
C'est top.
Ah, moi, c'est dans ma liste depuis, mais.
Et les chansons, elles sont folles.
Mais du coup, ça chante à tous les épisodes, c'est ça?
Ouais, c'est
la chanson originale.
Ouais. Rachel Bloom chante excessivement bien aussi, cette femme.
Elle est en binôme avec une de ses meilleures amies et c'est elles qui ont tout créé.
Ouais.
tout créé. Et à savoir qu'à l'époque, c'était sur la CW et que ce n'est pas une série de CW. Ça n'a rien à faire sur la CW. On a eu Smallville, One Tree Hill, plein de choses comme ça. Et on a eu Crazy Ex-Girlfriend qui arrivait d'un coup. Ça a quand même duré 4 ou 5 saisons. Je ne sais pas par quel miracle.
Voire plus, c'était 6. Plus.
6.
J'aurais, ouais, 6 ou 7, j'aurais dit.
Ah, j'aurais pas dit 7 quand même. C'est extraordinaire. J'ai un coup de cœur quand même sur la saison 1 qui est mythique. Il y a des moments où ça descend un peu, etc.
Il y a des fillers comme toutes les séries.
Pour clôturer ce débat, je dirais que le meilleur épisode musical d'une série, c'est l'épisode sur le CD de 3615 Usul. On va écouter tout de suite un extrait de Crazy Ex-Girlfriend. On va écouter la chanson You Stupid Bitch.
Well, Rebecca, you've done it now.
Yeah, you guys know this one.
Karma's come to tap you on the shoulder. All that lying that's been festering, plus breaking and entering, is coming now to crush you like a boulder. You ruined everything, you stupid bitch. You ruined. Bitch, and lose some weight. I was so close to paradise, but now the only thing I'm close to is defeat. These shards are a metaphor for my soul. Won't stop the self-pity 'cause I'm on a roll. Yes, Josh completes me, but how can that be when there's no me left to complete? You ruined everything, you stupid bitch. Sing with me. You ruined everything, you stupid, stupid bitch.
On vient d'écouter You Stupid Bitch de Crazy Ex-Girlfriend.
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Moi, j'aimerais vous parler d'un truc qui me plaît pas trop actuellement dans le milieu de la comédie musicale. Ce sont les membres d'un cast original qui reprennent leur rôle des années après à l'avoir quitté. On a pas mal vu ça au cours de cette dernière année. Par exemple, en février et mars 2025, à Londres, on a pu voir les acteurs originaux de Heidi Starn rejouer le spectacle. Ils sont venus à l'occasion du tournage de la captation de la pièce, qui va d'ailleurs être diffusée très bientôt au cinéma le 24 juillet 2026, uniquement aux États-Unis pour le moment, mais croisons les doigts pour que ça sorte sur une plateforme de streaming au hasard. Disney+, comme ça il y aura sur la même plateforme les deux comédies musicales qui commencent par A et qui finissent par N, et les moutons seront bien gardés. Le problème que j'ai avec cet événement, c'est bien sûr, évidemment, pas que je déteste du plus profond de mon âme les acteurs originaux, c'est juste que cette annonce a créé un énorme engouement autour de ça, et les producteurs le savaient. C'est pourquoi, lors de l'annonce de leur présence limitée, la réservation des places de manière classique a disparu, afin de laisser à place à un système de réservation via une file d'attente, comme un concert de Taylor Swift, finalement. D'ailleurs, on vient de l'apprendre, mais Taylor Swift va jouer Perséphone à Broadway en 2027. Mais en gros, tout ça, ça crée une sorte de bataille pour obtenir des tickets, alors qu'en temps normal, il suffit juste de vérifier les places restantes et ça bloque la réservation pendant un mois pour les gens qui avaient peut-être prévu des vacances ou un week-end à ce moment-là. Ça crée de la frustration et surtout, ça rend inaccessible, certes sur une courte période, mais quand même, le théâtre, qui est quelque chose qui, dans les sens, veut être quelque chose d'ouvert à tout le monde, avec bien des nuances, je vous l'avoue, que je n'aurai pas le temps de détailler ici, bien sûr. Et ça crée de la spéculation pour avoir des places, des prix qui augmentent, etc. Et je trouve ça... c'est assez compliqué de la part des productions parce que c'est, bon, le capitalisme, j'ai envie de dire. Cette même chose est arrivée l'été dernier quand il a été annoncé qu'à Broadway, Leslie Odom Jr. reprendrait dans Hamilton le rôle d'Aaron Burr, qu'il n'avait pas joué depuis presque 10 ans. Cette même chose est arrivée l'hiver dernier quand il a été annoncé qu'à Londres, Leslie Odom Jr. Attends, mais il est partout le type.
Oui, il a été annoncé c'est deux fois.
Mais honnêtement, sur ce point-là sur l'étiquette, ça n'est même pas ce qui me dérange le plus. Je trouve que traiter ça de cette manière, ça donne une idée que tel acteur vaut mieux qu'un autre, que telle performance sera telle forcément mieux parce qu'il y a l'acteur original. Et je pense que ça renvoie sûrement involontairement une idée de « Ah, les acteurs remplaçants, ils sont trop nuls parce que c'est pas les originaux. » Comme si la seule valeur de la pièce, c'était pas l'histoire, les chansons, la musique, la mise en scène et tout, mais juste le cast original. Ça délégitime de fou les actrices qui sont moins connues. Et moi, je pense à ces gens-là qui sont pas forcément des stars, mais qui se trouvent, sont actuellement dans la production d'une grosse comédie musicale. Et ça me fait un peu de la peine pour eux, parce que toutes ces réactions donnent un peu l'impression qu'ils ne valent rien. Et ça pose aussi une question, pourquoi vouloir absolument voir la meuf, le mec qui est dans l'album qu'on écoute tout le temps faire exactement la même chose à laquelle on s'attend? Est-ce que justement ce qui est intéressant dans le spectacle vivant, c'est pas que chaque représentation soit unique, qu'on ait l'occasion de voir plein d'acteurs différents sur un même rôle, faire des versions différentes d'un même personnage et nous permettre de redécouvrir des œuvres et des chansons sous un nouvel œil? Et ce que je dis n'est peut-être pas très pertinent, ni c'est simplement une réflexion personnelle, mais je me demande ce que vous, autour de la table, vous pensiez de ce phénomène.
Je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, on peut s'octroyer des petits plaisirs.
Un petit kiff.
Demain, on dit que le cast original de Londres, de Heathers, revient. Ah. La place est prise, le ticket d'Eurostar est réservé.
Moi, je trouve que c'est un peu une nostalgie. C'est pas forcément dénigrer les acteurs actuels, etc. Mais c'est un petit coup de nostalgie. Moi, Hamilton, je l'ai vu plusieurs fois, mais bien sûr que j'ai sauté sur le fait d'aller voir Leslie Odom Jr. dans Hamilton. Enfin, je vais pas passer à côté. Surtout que j'ai vu le cast original de Londres en 2018 et que sincèrement, j'ai été un peu déçue par celui qui a joué Aaron Burr et que j'ai pas ressenti cette âme que j'attendais. Et ce qui fait que je n'ai pas vécu le Hamilton que j'aurais voulu vivre à 100% et que j'ai envie de... Parce que pour moi, Aaron Burr, c'est le rôle principal. Si, moi, en fait, il avait un cheveu sur la langue très important et ça m'a complètement sorti, clairement, du musical. Et j'ai envie de le vivre à 100%, en fait. Et je me dis, bah, il est là. il va refaire, OK, le truc qu'on connaît, qui est sur Disney+, tout ce qu'on veut, etc. Mais j'ai envie de la voir, quoi.
En fait, c'est un peu, finalement, c'est un petit peu comme un concert. Mmh. En soi, si tu vas voir le concert de ton artiste préféré, tu connais déjà toutes les chansons par cœur. Mais t'as quand même cette envie, t'as quand même envie de le voir en vrai, parce que c'est ton petit chouchou après tout. Non, je comprends, je suis assez d'accord avec ça. Et en même temps, je suis aussi assez d'accord avec Gauthier.
Je suis d'accord avec les deux. Sans avoir le cast original, c'est ce qui se passe aussi sur plein d'autres choses, sur les stunt castings, donc les castings de stars dans les musicals. Là, on a eu un énorme exemple avec Chicago à Broadway, où on a une fille de télé-réalité qui sortait de Danse avec les stars, etc., et qui a eu beaucoup de succès d'un coup, et qu'ils ont casté en Roxy. Les prix ont augmenté d'un coup parce qu'elle a vendu, ils ont jamais autant vendu que pendant tout son run, alors que elle n'est pas de comédie musicale, ce n'est pas une nostalgie, etc. Elle a bloqué les billetteries. Enfin, c'était dingue. Donc, on a aussi les deux côtés. Et moi, je pense qu'il faut se faire plaisir.
Est-ce que c'est un peu le même phénomène que ce qui s'était passé avec Shime, finalement?
C'est exactement ce que j'allais dire, Ange.
On est connecté.
Pas besoin d'aller aussi loin qu'à New York, finalement.
c'est pas vendu pareil.
Non.
Oui, non, bien sûr.
Peut-être qu'il comptait là-dessus, cela dit.
Je pense que comme elle a vite arrêté et elle est revenue après, bah, ça a peut-être eu pas l'engouement qui s'attendait autant. Oui, c'est possible.
Je pense aussi.
Mais parce que quand tu passes devant le casino de Paris,
c'est que elle.
C'est ça, on dirait que les autres actrices n'existent pas.
Ouais, mais c'est surtout que le rôle de Velma n'est pas le principal.
Ouais.
C'est celui de Roxy. Et donc c'est un peu perturbant. J'ai une amie qui était avec moi à la première et qui m'a dit, mais elle n'a pas le rôle principal, parce qu'elle ne connaissait pas du tout Chicago. Et j'ai fait, non. non.
Et je trouve ça fou d'avoir fait toute la com' quand même autour de Shime. C'est un choix quand même. Pourtant, écoutez-moi bien, c'était mon artiste d'enfance, Shime. J'ai beaucoup d'albums d'elle. Et j'ai un amour nostalgique profond pour Shime. Et pourtant, je ne suis pas allée voir Chicago parce que je suis nulle. Mais j'aurais dû le faire. Mais je trouve ça fou d'avoir fait toute la com' autour de Shime. J'ose le dire, en big 2026. Mais qui donne encore l'heure à Shime avec tout l'amour que je lui porte? Genre, c'est fou.
Moi, je pense qu'en France, ils ont vraiment énormément de mal à vendre les comédies musicales. Ah, on a beau tout essayer, en parler, etc. Et qu'ils se disent, alors que pour moi, je suis pas sûre que c'est la chose à faire et qu'il y a autre chose à essayer pour faire vendre, mais il faut qu'on fasse un star casting pour que ça se vende. On a envie de... À l'époque, ils l'ont mis en 2018, c'était Sophia Issaizi. Mm.
Bien sûr. Oh oui, bah, je l'adore en même temps.
Une queen, c'était incroyable.
Elle est super.
Mm.
Cependant,
mais...
c'était super.
C'était très bien. Vraiment. C'est là où la limite du star casting est à trouver. Mm. Est-ce que, parce qu'il y a des moments où c'est des star casting qui ne savent pas jouer, qui ne savent pas chanter, etc. Et souvent c'est catastrophique, mais c'est juste pour faire vendre. Là, ce n'est pas du tout le cas de Chaim, ce n'est pas du tout le cas de Sophia Issaizi.
Sophia Issaizi a quand même une carrière dans la comédie musicale aussi, voilà. Oui.
J'ai eu des retours qu'apparemment Chaim était bien, mais que ça se voyait que c'était pas, qu'elle venait pas de la comédie musicale, quoi.
Bah, en fait, elle était en binôme avec Vanessa. Qui est de. Et en fait, Vanessa est exceptionnelle. Et ce qui fait que, à chaque fois qu'elles avaient des duos, moi, je ressentais que Vanessa essayait de se contenir un peu pour pas que ça se voit trop. Et j'ai trouvé Chaim incroyable. Mais à côté de Vanessa, bah, ça se sentait qu'elle était un peu en dessous. Mais elle était très bien, hein, vraiment. C'est très bon casting, etc. Juste, ça sentait un peu, quoi.
C'est un petit peu dommage. Alors que pourtant, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin forcément de faire des star casting. Je pense à. Cher Evan Hansen, où c'est beaucoup de jeunes acteurs et tout, ouais. Dedans. Et j'ai l'impression
mais ça n'a pas marché
ah
au
ouais,
départ.
Ça a pas marché.
Au départ.
Ah oui, mais après,
ça
avec les vidéos.
Mais grâce aux réseaux sociaux.
Eh bien, toujours.
Grâce à ton compte.
je fais mon référencement. Tumblr.
Non, mais oui, il y a eu pas mal de vidéos. Au ouais. Final, à la fin, ça a bien marché.
À la fin,
mais
c'était
faut...
complet. Avoir une place, c'était hyper, hyper tendu. Et je pense qu'ils s'y attendaient pas, sinon je pense qu'ils auraient prolongé. Mais au départ, moi, j'y suis allée au départ. Ah, bah, il n'y avait personne.
Normal. Mais en même temps, tu vois, ils ont eu aussi confiance en leur spectacle.
Bah, oui.
Et en ce qu'ils avaient créé. Et ils avaient des vidéos que j'ai vues. C'était parce que j'ai pas pu aller voir non plus. Ah, mais non. C'était des jeunes hyper talentueux et tout. Les adaptations étaient cool. En vrai, ça peut se faire, et surtout que chez Evan Hansen, ça a aucune, comment dire, si t'es non initié en France, tu ne connais pas, dire Evan Hansen, alors que Chicago, ça t'est déjà venu aux oreilles, c'est possible.
C'est plus facile, Chicago, oui. Quand même, oui. Donc, mais finalement... là, j'étais à la dernière de Chicago, c'était pas rempli, hein.
Ah oui?
Non, les gens, ils ont été replacés, tout ça à la fin. Hein.
Ah ouais?
Je m'y attendais pas, je m'attendais à ce qu'une dernière, avec Chaim, parce qu'elle était revenue à la fin, allait se remplir énormément, et pas du tout.
Oh, c'est triste. En vrai, c'est super triste.
Ah, en plus, il y a eu une super bonne com et une super bonne pub.
Je sais pas, je pense qu'il y a encore un travail monstre à faire en termes de communication.
C'est super, ouais. Chicago. Moi, j'ai récupéré une rose.
Oh. Ah, moi aussi! Elle est sur mon bureau depuis deux mois. Après, c'est peut-être la même, ça se trouve, on se la partage mutuellement.
C'est pour ça qu'elle a disparu de ma commode la dernière fois.
Et je trouve que c'est vrai que la com, tu vois, justement, on compare les deux. Chicago, c'est une com très clean, très lisse. Et bah, tu vois, alors que chez Evan Hansen, ça a marché à la fin, ça a intrigué les gens parce que c'était des vidéos prises à l'arrache du public où tu entends, où ils chantaient Sincerely Me, surtout, c'est ça que j'ai vu tourner, et où c'est hyper fun. Et tu dis, mais merde, c'est quoi ça, genre?
Ouais, mais vous vous rendez compte, en France, ils sont obligés d'autoriser à ce qu'on filme pour partager. Monte Cristo, le spectacle musical, au départ, on n'avait pas le droit. Et au bout de 3 semaines, parce que ça ne se vendait pas, on a eu l'autorisation de filmer et partager, mais c'était déjà un peu trop tard. Ce qui fait que l'engouement, il n'a pas autant pris que Cher Evan. Et Chicago, par exemple, on n'a pas le droit de filmer, mais parce que c'est normal, en France, on a un peu trop l'habitude de sortir notre téléphone au spectacle.
Avec le flash.
Ah non, par contre, ça, c'est catastrophique.
Pitié, arrêtez.
Voilà, mais c'est là où c'est triste, c'est que c'est nous qui faisons la communication. Et ils n'arrivent pas à trouver d'autres solutions à part des gros théâtres comme le Théâtre du Châtelet qui arrivent à remplir généralement leur spectacle.
Eh bien, écoutez, merci à vous toutes pour toutes ces informations, toutes ces discussions. C'est la fin de cette émission de Slime. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Slime, c'est disponible en podcast sur www.radiocampusparis.org. Mais vous pouvez aussi nous retrouver dans les coulisses si vous avez payé le ticket avec le Meet and Greet. Alors, uniquement avec le forfait premium, sinon vous avez juste le droit de rester 5 minutes de plus assis à votre chaise, mais attention, pas une seule de plus. Merci beaucoup, Ange.
Merci, Gauthier. Gauthier, ça va ?
Oui. Merci beaucoup, Élise.
Comment tu vas, Gauthier ?
Arrêtez de me saouler avec cette question.
Quelle est ton humeur du jour ? Est-ce que tu es en tempête émotionnelle ?
Ilona, je t'ai pas encore remercié. Attention.
Waouh, c'est hyper misogyne.
C'est horrible.
Merci, Ilona.
De rien, Gauthier.
Ça va ?
Oui.
Merci à Rosalie, à la technique. Merci à Morgane d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup de m'avoir invité, surtout hyper intéressant, c'était trop cool.
Bah, c'était super gentil de ta part. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Ah bah, on peut me retrouver sur TikTok, Mo in Theater, et sur Instagram, exactement pareil, Mo in Theater. J'essaye de partager de plus en plus de la France, donc n'hésitez pas à suivre.
Est-ce que t'as des trucs de prévu à tout hasard
Oui, bah, prochainement on a le Rocky Horror Show. au Casino de Paris, j'ai extrêmement hâte. Et après, j'ai un beau voyage à Londres avec Hamilton et Leslie Odom Jr. justement. Jamie Muscalo avec Cabaret. Beetlejuice. Je vais voir Ben Platt dans Midnight at the Navigate. Et après, je vais à New York. J'ai pris aucune place pour le moment. J'ai décidé de Daisy tous les jours, mais on verra bien ce que je verrai.
Et bah écoute, on suivra ça sur ton compte Mo in Theater. Merci beaucoup encore une
Merci
fois d'être venu.
Vous.
Et quant à nous, on se retrouvera le mois prochain pour la dernière émission de la saison. En attendant, chantez, dansez. Et si vous voulez, oui, faites des stories. Salut!